Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melponème, Polymnie, Terpsichore, Thalia et Marguerite de Navarre. Dans cette liste de noms aux sonorités antiques, la dernière résonne comme un intrus. Si la mythologie grecque ne compte que 9 muses, vous savez, ces sœurs qui représentent les arts libéraux, la Renaissance en a ajouté une 10e en la personne de Marguerite de Navarre, surnommée par ses contemporains la 10e des muses. Reine consort du royaume de Navarre, la sœur de François Ier est avant tout une femme de lettres connue pour l'Heptaméron, un recueil inachevé de 72 nouvelles. 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique et sans lien de cause à effet, Louise de Savoie, les joies de la maternité en accouchant d'une fille, Marguerite d'Angoulême, fille de Charles de Valois, comte d'Angoulême. Attention, une précision s'impose toutefois. Je vous parle aujourd'hui de la grand-mère d'Henri IV, Marguerite de Navarre, et non pas de sa première épouse, Marguerite de France, surnommée la reine Margot. Maintenant que les choses sont claires, retournons à l'aube de la Renaissance avec cette jeune princesse que sa mère décide donc d'appeler Marguerite, du latin Margarita, qui n'a rien à voir avec le cocktail, et qui signifie perle. Pourquoi ? Parce qu'elle en aurait avalé une en mangeant des huîtres lors de sa grossesse. Une légende appréciée des poètes qui font de Marguerite la perle des Valois. Ce doux surnom lui sied à merveille, car en grandissant, la jeune femme se révèle d'une beauté sans pareille. Le poète Clément Marot la qualifie de corps féminin, cœur d'homme et tête d'ange. Grande, élancée, le nez fin et long, le regard enjôleur et le sourire mignon, Marguerite éblouit ses contemporains, et pas que. Son physique gracieux a été immortalisé pour l'éternité par le peintre Jean Clouet, qui a ajouté sur son portrait un oiseau posé sur la main droite de la demoiselle. Mais pas n'importe quel piaf, non, une perruche verte, symbole de l'éloquence. L'art de la parole, Marguerite le maîtrise en effet à la perfection et dans bien des langues. À 13 ans, elle parle l'italien et l'espagnol et connaît le grec, le latin et l'hébreu. Cette éducation ultra soignée, elle la reçoit aux côtés de son frère François, de 2 ans son cadet. Son père, le comte d'Angoulême, mourant prématurément, sa mère, Louise de Savoie, se retrouve veuve à 19 ans. Louis d'Orléans, tuteur officiel des 2 enfants et futur roi Louis XII, les convie à Chinon, où elle élève ses enfants, puis la famille déménage au château d'Amboise. Intellectuelle avant l'heure, elle a pour devise « Libris et liberis » pour mes livres et pour mes enfants, et transmet à la petite Marguerite sa passion pour les lettres. Mais pour l'heure vient le temps des alliances matrimoniales. Il faut bien assumer les obligations de son rang. En 1509, après avoir dû refuser sa main à des prétendants prestigieux, mais de maisons étrangères comme le prince de Galles, le duc d'York, le roi d'Angleterre Henri VIII, quelle chance, ou encore le prince de Calabre, Marguerite devient duchesse d'Alençon par son mariage avec Charles d'Alençon. 5 ans plus tard, son frère épouse quant à lui Claude de France, la fille du roi, et se rapproche ainsi très près du trône. Quand Louis XII meurt, sans descendance masculine, c'est lui qui devient roi sous le nom de François Ier en 1515. Son avènement permet à Marguerite d'occuper une place de la plus haute importance à la cour et la propulse sur le devant de la scène politique. Marguerite et Charles d'Alençon n'ont pas grand-chose en commun. Leur mariage n'est pas heureux. Il paraît même que son mari aurait abandonné François Ier à la défaite de Pavie lors des guerres d'Italie en 1525. La honte. Mais leur union s'achève cette même année avec la mort prématurée de Charles d'Alençon. Pendant la captivité de son frère, Marguerite prend ses responsabilités auprès de sa mère promue régente. Courageuse et intrépide, elle chevauche jusqu'en Espagne pour rendre visite à son frère, très malade, dans sa prison madrilène. Elle est venue, elle l'a vu, mais elle n'a pas vaincu Charles Quint, qui refuse de le faire sortir malgré ses tentatives de négociation. Le roi de France sera finalement libéré quelques mois plus tard après avoir signé un traité un peu humiliant, lequel stipule notamment qu'il doit laisser ses 2 fils en otage en Espagne. Mais revenons à Marguerite qui, en janvier 1527, épouse en seconde noces Henri d'Albret, roi de Navarre. Elle devient ainsi reine consort du royaume de Navarre. Ce bel âtre de 10 ans, son cadet, elle le décrit comme un bel homme jouisseur et hardi. S'il s'agit d'un mariage d'amour, rien ne permet de l'assurer, mais c'est au moins un mariage consenti et un mariage heureux. De leur union naît une fille, Jeanne, en novembre 1528. Tout en restant fidèle à la foi catholique, Marguerite de Navarre s'ouvre à la réforme et s'intéresse de près aux idées humanistes. Mécène et protectrice des arts, elle s'entoure de gens de lettres et de grands intellectuels comme Clément Marot, Lefèvre d'Étaples, Guillaume Brissonnet. Son ouverture d'esprit bouleverse le destin de ses enfants et rien de moins que l'histoire de France. Car sa fille, Jeanne d'Albret, se convertit ouvertement au protestantisme et élève elle-même son fils dans la foi protestante. Un fils qui n'est autre qu'Henri de Navarre, notre futur Henri IV. Les guerres de religion ne sont pas loin. Bientôt, de la politique, Marguerite de Navarre n'en fera presque plus, se consacrant exclusivement à sa passion pour l'écriture. Alors que les premières querelles religieuses éclatent dans les années 1530, Marguerite de Navarre se retire dans ses terres, dans son château de Pau, de Mont-de-Marsan et de Nérac, pendant que son mari se résigne difficilement à ne régner que sur la basse Navarre et rêve d'une reconquête de la partie espagnole, elle se consacre entièrement à l'écriture, s'adonnant tant à la poésie qu'au théâtre. En 1542, elle débute la rédaction de courts textes en prose, en s'inspirant fortement du célèbre Décaméron de Boccace, ses 100 nouvelles écrites au XIVe siècle par le poète italien. Elle n'en écrit que 72, laissant son œuvre inachevée pour cause de décès. Son éditeur choisira de donner au recueil le titre d'Heptaméron. Hepta signifie 7 en grec et héméra, jour. Car chaque jour, pendant 10 jours, 10 voyageurs se racontent 10 histoires. Ils sont bloqués dans une abbaye suite à la crue d'une rivière et tentent ainsi de tromper l'ennui. Marguerite de Navarre signe là une œuvre riche et originale, car les voyageurs ne se racontent pas des histoires banales et sans intérêt. Bien au contraire, les voilà qui débattent en réalité de thèmes érudits comme l'amour conjugal, l'orientation morale et spirituelle et même des droits des femmes. En 1547, la nouvelliste apprend la mort de son frère tant aimé, François Ier, et se retire au monastère de Tusson, en actuelle Charente. Inconsolable, elle trouve refuge dans l'écriture et exprime sa douleur en vers dans la comédie sur le trépas du roi. Elle n'en oublie pas de manier les mots à merveille et de jouer avec les identités des personnages. Pan, François Ier, sera donc le maître perdu de la bergère amarissime elle-même. Le berger Agapi, Henri II, partage sa douleur extrême. Auprès d'eux, Sécuris, Henri d'Albret, modère leur transport, paraît le souverain consolateur, Paraclésis, le Saint-Esprit. L'année suivante, Marguerite de Navarre assiste au mariage de sa fille, Jeanne d'Albret, avec Antoine de Bourbon et le raconte dans la 66e nouvelle de son Heptaméron. Elle s'éteint quelques mois plus tard, en décembre 1549, ignorant alors que son petit-fils montera sur le trône sous le nom d'Henri IV. Fichtre. Ça aurait fait une bien bonne nouvelle.
Europe 1,
historiquement vôtre.